L'émission qui va suivre vous est proposée en partenariat avec la librairie La Procure.
Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Bonjour Jean-François Rode.
Bonjour Christophe.
Alors c'est le miracle du direct.
Du direct.
On ne sait pas si notre invité va arriver ou pas. Mais en tout cas, on va pouvoir en parler et puis parler de ses livres. Il s'agit de Michel Cole, qui est né en 1956, qui est journaliste de presse écrite, de radio, de télévision. Et il a également été éditeur, il est animateur de retraites spirituelles, c'est important pour la suite. Il est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages, et là, il y en a deux. L'un que j'ai retenu par amitié, et vous allez comprendre pourquoi, et l'autre qui vient de sortir. Ce deuxième s'appelle « Retrouver la liberté spirituelle », il est publié chez Salvatore. Et puis le livre que j'ai retenu, parce que nous allons parler aussi, ça s'appelle « L'échappée belle du pape ». C'est un livre publié chez Quasar. Alors, retrouver la liberté spirituelle, je le cite, il s'agit en effet de préserver en soi l'homme libre, l'homme intérieur, l'homme spirituel contre tout ce qui peut le réduire en esclavage. Est-ce que nous aurions oublié cette liberté spirituelle? Vous qui, Jean-François Rode, qui êtes particulièrement attentif aux ignatiens et à la méthode ignatienne, est-ce que c'est pas le fondement précisément de la méthode ignatienne, c'est de retrouver le goût de la liberté?
En tout cas, il est certain que les exercices spirituels, tout le monde le sait, ça n'est pas un livre à lire, c'est pas un livre de méditation, enfin c'est bien sûr des méditations, mais je veux dire, c'est pas un livre pour réfléchir, c'est un livre pour discerner,
oui.
C'est un livre pour se mettre en présence de Dieu, se mettre devant la parole de Dieu, selon une méthode justement bien expérimentée.
C'est un manuel méthodologique.
Exactement.
Puisque les exercices ne peuvent pas se pratiquer seuls.
Ce sont vraiment des exercices.
Et qu'on a besoin d'un accompagnant.
Et effectivement, le but de ces exercices, c'est bien de prendre une décision libre pour sa vie, que ce soit la grande retraite pour l'orienter toute sa vie, ou que ce soit une retraite régulière pour rectifier un certain nombre de choses, effectivement, retrouver là où est son désir profond, là où est, qui rejoint le désir de Dieu sur nous. Donc, c'est vrai que cette notion de liberté est essentielle. La foi n'est pas le contraire de la liberté, évidemment.
Alors, la retraite spirituelle que propose Michel Cole dans son livre « Retrouver la liberté spirituelle », c'est une retraite domestique, une retraite à la maison qu'il propose, et il propose une sorte de méthode, hein, ben, toute proportion gardée, un peu comme Ignace propose une méthode de discernement, ben, lui propose une méthode de retraite à la maison. Ce qui est intéressant par ces temps de carême, de se dire, ben, oui, finalement, j'ai pas besoin d'aller au monastère, je peux faire ça tranquillement chez moi et essayer de suivre cette retraite. Alors, il y a 5 points qu'il nous donne, pour 5 points de méthode, finalement, pour aller dans cette retraite, pour retrouver la liberté spirituelle. Le premier, c'est discerner, ensuite prier, communier, poétiser, et enfin, la nécessité du Christ. Alors, c'est intéressant comme cheminement, parce qu'on commence par discerner, alors que normalement, on a plutôt l'impression qu'on commence par prier, qui va nous permettre de discerner et ensuite de communier. Et avant même de prier, on peut avoir poétisé. Donc, on pourrait avoir poétisé, prié, communié, discerné. Non, lui, il prend ça dans un autre ordre, ce que j'ai trouvé tout à fait intéressant et original. Alors, chaque tête de chapitre commence par un credo. Je crois qu'il faut voir. Je crois à l'intercession des saints. Je crois à la communion. Je crois à la lumière. Je crois que je ne peux pas vivre sans lui. Et puis, chaque chapitre, après ce credo, s'achève par une prière qui est là, non pas pour résumer le chapitre, mais elle est en encadré, non pas pour résumer le chapitre, ni pour le conclure, mais comme pour l'élever. Et donc, dans notre retraite domestique, que nous allons vivre grâce à Michel Cole, notamment au moment du carême, dans notre retraite domestique, eh bien, nous allons petit à petit aller pour voir, pour croire, pour communier, pour se réjouir de la lumière, puis s'apercevoir que l'on ne peut pas vivre sans lui.
Alors, je vais faire une confession, Christophe.
Allez-y.
Quand j'ai reçu le livre de Michel Cole, je l'ai feuilleté, j'ai regardé, enfin, j'ai commencé par comme on fait toujours, humer un peu. Là. Et je me suis rendu compte que c'était un recueil d'articles qu'il avait déjà fait pour Aletheia, pour La Croix, pour différents médias. Oui. Je me suis dit, zut, alors franchement...
C'est du recyclage.
Ça, c'est du recyclage, ça va pas être très drôle... Et je me suis mis à lire le livre un peu par devoir, avec déjà un peu cet a priori un peu négatif. Eh bien, en fait, j'en suis revenu. C'est vraiment très bon. C'est vraiment très intéressant. Alors, de fait, il a pris, et là, c'est intelligent de sa part, il a pris ce thème de la liberté intérieure, de la liberté spirituelle, comme liant du bouquet de ses articles.
Est-ce à dire que ça conduit tous ces articles, d'une certaine façon ? C'est-à-dire, est-ce que la liberté intérieure... est en amont de ses articles, et au bout d'un moment, il dit « Bah oui, j'ai déjà raconté tout ça, donc je les mets en ordre, et ça donne le recueil. » Ou bien, est-ce que au fur et à mesure de sa pérégrination intérieure, il s'est rendu compte qu'il avait déjà écrit tout ça ?
Alors, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il rassemble bien ce qui lui paraît être important. Une chose qui est évidente chez Michel Kohl, c'est qu'il a une grande amitié, j'allais dire une grande dévotion pour les moines. Il a quelque part, il raconte d'ailleurs dans un autre livre comment il s'est converti. Enfin,
Là, il en cite plusieurs. Hein. Oui.
Et donc, il a beaucoup de références avec les moines.
Oui.
Et à partir des confidences qu'il a reçues, des rencontres qu'il a faites, il sort un peu sa propre spiritualité. Est-ce que je peux commencer par le premier là ?
Allez-y.
Il dit qu'il a vu, qu'il a rencontré un moine à la grande trappe de Soligny, et qui lui a dit, parce que la question qu'il lui a posée, c'est « Pourquoi avez-vous choisi la vie monastique ?» Effectivement, c'est intéressant. « Pourquoi avez-vous choisi ?» Et la réponse fut spontanée. « Voyez-vous, je vis ici, non pas pour assouvir une soif de croire, mais par désir intense de voir. Je m'exerce à voir les êtres et les choses comme Jésus, en les regardant par la lumière de Dieu. Ce faisant, j'apprends à voir pour croire. » Et ça, je trouve ça très intéressant d'unir la vision de la réalité humaine, de la réalité dans laquelle on vit, et de lire tout cela à la lumière de Dieu.
Alors, je vais le citer. « Un peu de sagesse biblique ne peut pas faire de mal, tant s'en faut, pour se prémunir contre la cacophonie des égaux qui nous rebat les oreilles et nous presse d'entrer dans la danse des perroquets. » Elle est un utile garde-fou contre l'égotisme imbécile, ce narcissisme médiatisé à tout rond, capable d'ensorceler n'importe qui. La sagesse biblique prévient du risque de laisser sa liberté intérieure être ensevelie par un fatras, un fouillis de fadaises extérieures et intérieures si considérables qu'on ne peut plus respirer ni s'exprimer. » Alors, on a ce besoin aujourd'hui de laisser les téléphones portables, les écrans, d'aller à l'essentiel. L'essentiel qui est d'abord une paix, d'abord de retrouver la paix, ensuite la liberté profonde, de pouvoir regarder avec ce que vous venez de citer, le regard du Christ, si possible. Mais en tout cas, cette sagesse biblique à laquelle il nous convie, Michel Kohl, dans son livre « Retrouver la liberté spirituelle chez Salvatore », cette sagesse biblique est très, très importante. Alors, je vous écoute.
Par exemple, j'ai trouvé très bien, à partir de cette réflexion de moine qu'on citait tout à l'heure, il y a un éloge qu'on ne rencontre pas souvent ces temps-ci dans les livres, un éloge de l'Action catholique. Pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui, je crois, l'Action catholique, c'est une vieille lune dépassée qui... Alors que peut-être les personnes un peu de ma génération se souviennent bien, au contraire.
Oui, mais on l'a politisé.
Peut-être, sans doute, mais je pense que se rappeler un peu l'intuition profonde de l'Action catholique, qui était quand même toujours une démarche de révision de vie.
Ouais.
Et on s'est moqué de la formule « voir, juger, agir ». Mais la relecture, la révision de vie, c'est un pilier de la spiritualité. Je cite le...
Michel Kohl.
Donc, cette méthodologie qui a été préconisée par un prêtre belge, Joseph Cardjean, le fondateur de la JOC, en 1925, et son objectif final n'est pas de dérouler une doctrine, encore moins une idéologie, elle vise essentiellement à former des jeunes chrétiens au discernement de la présence de Dieu dans leur vie, dans leur vie quotidienne, sur leur lieu de travail, dans la société, dans le monde. La révision de vie, donc pas réservée à des personnes arrivant à la dernière station de leur existence, est un code de la route chrétien pour tous les âges de la vie. Et ça, je trouve, c'est très important. Parce que ça évite de commettre l'erreur de séparer la spiritualité de la temporalité. Je continue à citer. Mmh. Le culte de la vie, la messe dominicale et de la mission dans le monde. Par son incarnation, le Christ, qui est fils de Dieu, a unifié sa condition surnaturelle et sa condition humaine. Ça, je trouve que cet éloge de l'union entre la spiritualité et la vie est tout à fait importante.
Et alors, il le développe dans son chapitre poétisé. Il écrit, je le cite, « L'art sous toutes ses formes est la voie royale de la communication de l'espérance ». Alors, je trouve ça intéressant, la communication de l'espérance, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la vision divine, si vous voulez, mais l'art nous ouvre dans sa beauté vers justement la communication de l'espérance. Et alors, il écrit un bel hommage à Michael Lonsdale, je ne sais pas si vous avez,
vu.
Et alors, je le cite parce que c'est très joli, mais surtout, Michael a déversé dans le cœur de ses amis un océan de bonté qu'ils n'ont pas fini de traverser et de méditer. C'est vrai que cet océan de bonté, c'était tout à fait Michael Lonsdale, particulièrement dans les dernières années de sa vie, où il était comme une éponge de l'autre. Enfin, c'était saisissant et c'était très agréable à vivre.
Michel Kohl, si je puis faire son éloge, puisqu'il n'est pas là, c'est encore plus facile, mais je trouve qu'il a justement une grande acuité pour ressaisir les choses. Et j'ai adoré vraiment les prières qu'il fait à partir de ses articles. Est-ce que, Christophe, vous avez regardé la prière en faisant ma crèche?
Oui.
Est-ce que je peux en lire un peu?
Allez-y.
J'ai demandé à l'âne de me donner la force de porter mes soucis et les inquiétudes de mes amis, tous ces ennuis qui pèsent sur mes épaules. J'ai demandé au bœuf de me procurer sa chaleur, pour que je puisse me réchauffer à son souffle des rigueurs de l'hiver et me consoler des séparations créées par l'éloignement. J'ai demandé au mouton de ne pas être un mouton de panurge qui suit bêtement le troupeau, mais un fidèle du bon berger qui guide vers les verts pâturages. Un mouton qui se méfie du faux berger, de l'imposteur et du facteur de fausses nouvelles. J'ai demandé au berger de m'apprendre à lire dans la nuit le message des étoiles qui m'indique comment garder le cap de l'espérance et suivre la route de la vraie joie, de la seule joie. J'ai demandé à Joseph de me garder d'éclater en colère quand les choses ne vont pas dans mon sens et de m'aider à ce que je me laisse plutôt garder par le silence de la patience et de la paix. J'ai demandé à Marie de me pourvoir du courage de la nuance quand je juge les autres et les événements. Elle qui ne comprit pas toujours les agissements de son fils, qu'elle m'instruise de sa sagesse consistant à faire la part des choses sans perdre de vue l'essentiel et en faisant confiance. Et j'ai demandé à la mangeoire, encore vide, de me recueillir tel que je suis, pauvre, nu, désarmé face au cosmos et au grand mystère de l'homme. C'est quand même pas mal, hein.
Voilà, donc ça,
c'est quand même bien rédigé. Il a du talent, notre ami.
Voyez,
hein.
Vous voyez, quand je faisais le parallèle avec Ignace, dans les exercices spirituels, Ignace nous dit « Qui suis-je devant la crèche ?» Et essayer de trouver le personnage dans lequel ma personne va pouvoir à la fois se reconnaître et vivre. Et là, il reprend cette même méthode ignatienne à travers cette prière, notamment, où chaque personnage de la crèche, il lui demande quelque chose. Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est qu'il y a deux grandes figures qui sortent de son ouvrage « Retrouver la liberté spirituelle » chez Salvator. C'est Thérèse de Lisieux et Charles de Foucault.
Est-ce que je peux dire qu'il y en a un troisième, on pourra en parler après?
C'est Paul VI.
Paul VI, évidemment.
Alors justement,
Là aussi, il nous surprend toujours un peu Michel Kohl, là-dessus, ouais. Parce que l'éloge de Jean-Paul II, l'éloge qui le mérite, hein, évidemment, l'éloge de Benoît XVI, qui le mérite, évidemment, sont assez fréquents. L'éloge de Paul VI est moins fréquent, et en fait... Michel Kohl a consacré d'ailleurs un livre à la biographie de Paul VI, et il a très bien montré que c'était justement une personnalité quelquefois moins facile à saisir, parce qu'elle était nuancée, complexe, très riche, très diverse, et qu'il avait toujours le souci de ne jamais lâcher un élément même moindre, mais il voulait toujours rassembler tout. Alors, quelquefois, on lui a reproché peut-être un petit peu indécis, ou de ne pas être assez... assez, oui, c'est ça, pas assez décideur. Mais en fait, il a toujours montré...
Et c'est un infatigable épistolaire. Il alors, écrit des lettres tous les soirs. Donc on sent que... alors il est très lettré. C'est vrai que la figure de Paul VI est un peu occulté par les derniers papes et un peu oublié, mais enfin, il n'empêche que c'est lui qui a conclu Vatican II. Et alors là, Michel Kohl nous rappelle l'homélie du pape François du 11 octobre 2022, célébrant le 60e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II. « Son homélie m'a captivé, écrit-il, et j'ai pensé, elle va faire date. Pourquoi ? Parce que le pape y a rappelé puissamment, sans crainte de mettre les pieds dans le plat, ce qu'était Vatican II, non pas une parenthèse historique ou un sujet de débat herméneutique sans fin, mais l'amorce d'un processus de conversion spirituelle, une authentique expérience mystique qui, loin d'être terminée, poursuit sa course. Puis, en quelques formules bien frappées, il a remis certaines pendules à l'heure. François n'est pas le dernier à lancer des pics. Le cléricalisme des uns et la sinistrose des autres étaient encore dans son collimateur ce jour-là. »
Et j'ai retrouvé le passage où il parle un peu de Paul VI. Il le définit comme un pape complet, qui est tout à la fois un intellectuel, un juriste, un liturge, un pasteur, un diplomate, un mystique, un administrateur, un voyageur, un théologien, un polyglotte, esthète, politique, spirituel, écuménique, philosophe, poète, mélomane. Et effectivement, quand on voit chacun de ces adjectifs, on peut effectivement, quand on pense à Paul VI, on peut mettre une référence derrière. Et alors, il le fait aussi en prolongeant ce que vous venez de dire, il le fait en regrettant que le talent littéraire qui s'exprime dans les lettres de Paul VI n'est pas. Il, avec tout le travail qu'il a fait, tout le ministère qu'il a accompli, il n'a pas eu le temps de faire une œuvre vraiment littéraire. Mais c'est intéressant d'avoir cette vision de Paul VI qui, rappelons-le, on va en parler peut-être tout à l'heure à la fin, c'est lui qui a été chargé par le Concile Vatican II, en particulier, enfin de plein de choses, mais en particulier de refondre le missel romain. Comme le Concile de Trente avait demandé de refondre le missel, enfin de même de, en quelque sorte de le constituer, à Pie V. Donc aujourd'hui, on parle encore évidemment du missel de Paul VI, même s'il a été déjà amendé un peu par les autres papes.
Alors, il pose des questions quand même assez fortes en parlant de l'Église. Pourquoi je ne quitte pas l'Église ? Pourquoi, comment peut-on encore aimer l'Église ? Quand il parle des prétendus témoins de la foi après avoir été portés au nu, qui voient leur turpitude démasquée et sont déboulonnés comme des statues de pierre frappées de pulvérulence. Et il s'accroche à l'Église, non pas l'Église qui est l'image qu'il a de l'Église, mais à une Église au contraire très, très épurée, très dénudée, très pauvre finalement. Et c'est là où on rejoint Charles de Foucault. Oui. Parce que Charles de Foucault, il a bien compris les méandres de Charles de Foucault, qui était quand même un grand, grand fêlé, il faut le dire, avant cette formidable conversion de la fin de sa vie, quand il va devenir enfin le père de Foucault. Parce qu'avant, il prend toujours des pseudonymes, vous savez, il se cache toujours sous des tas de trucs. Et, bon, et là, on sent que Michel Kohl suit Charles de Foucault dans Retrouver la liberté spirituelle chez Salvatore, suit Charles de Foucault pour, justement... s'inscrire complètement dans le mouvement de l'Église.
Et alors, il a un très beau chapitre aussi qui s'intitule « Nécessité du Christ ».
Ouais.
Et il dit
« Ça, c'est la fin.
Je crois que je ne peux pas vivre sans lui ». Alors là, je ne relis pas tout parce qu'on ne peut pas lire tout le livre. Mais ce qui est vraiment très bien de sa part, c'est de dire « En fait, j'ai compris que je ne pouvais pas vivre sans lui le jour où j'ai compris que lui ne pouvait pas vivre sans moi ». C'est quand même extraordinaire quoi, de comprendre que finalement, si moi je m'attache au Christ, c'est parce que d'abord le Christ est venu me chercher, et j'allais dire à grands frais.
Alors nous avons parlé de Paul VI, nous avons parlé du pape François, et ça nous fait la transition toute trouvée pour ce roman, toujours de Michel Kohl, chez Cazard, qui s'appelle « L'échappée belle du pape ». Alors quand on voit la couverture, on a vraiment l'impression que c'est un livre pour enfants, hein, un livre pour 10-12 ans. Et puis, en effet, même la quatrième de couverture, qui nous parle d'une stupeur à Rome, le pape Jean-Baptiste a fugué, mon Dieu. Et alors, il part. Et j'ai commencé à feuilleter le livre comme vous, à l'humer. Puis finalement, je suis rentré dedans, puis finalement, j'ai tout lu. Et j'ai d'abord été très impressionné de la connaissance que Michel Cohn a du Vatican, des rouages du Vatican, de la direction de la communication, de la DRH, des félons, des bons, des méchants.
À travers le roman, on découvre beaucoup de choses du Vatican. Hein. On voit quelqu'un qui a été là-bas journaliste et qui connaît aussi tous les autres journalistes accrédités là-bas. Et de fait, ça c'est un des charmes. Alors d'abord, il faut dire aux éditeurs que là, précisément, le talent d'écriture de Michel Cohn, là, il brille vraiment. C'est un roman, ça se lit comme une... Ça se lit à toute vitesse, c'est très très beau. C'est très bien écrit, je veux dire, c'est passionnant, on s'ennuie jamais. Et c'est vrai qu'on apprend beaucoup sur le fonctionnement du Vatican. Alors après, je sais pas, parce qu'il serait là, j'avais envie de lui poser la question, je veux dire, bon, mais finalement, est-ce que... Vous voyez le pape François faire ça.
Alors, vous êtes, oui.
Moi, j'avais quand même lui demandé de quel était le pourquoi il avait fait cette fiction d'un pape qui se dit à un moment j'en ai marre, il faut que je m'en aille pendant un week-end dans un monastère, il faut que je retrouve mes amis, il faut que je dépose un peu la charge. Quoi,
alors, hein. On pense au pape François, mais il en parle parce que il fait faire le pape Jean-Baptiste, donc qui est le pape de cet ouvrage, l'échappée belle du pape, commande un audit. Hein, sur les fonctionnements du Vatican. Cet audit n'était pas une première au Vatican. Depuis le pontificat mémorable de l'Argentin François, qui avait dû faire face à des scandales financiers impliquant la Banque Vaticane et la crise mondiale des abus sexuels dans le clergé, la pratique de l'audit était devenue coutumière pour les papes successifs. Donc on comprend que... Bon, mais en même temps, regardez le détail. Il ne cachait pas non plus son admiration pour le dévouement et le savoir-faire que démontraient beaucoup des membres de l'administration vaticane. Faites la comparaison. Une ville de 2 millions d'habitants comme Paris est administrée par 52 500 fonctionnaires. L'Église catholique, soit près d'un milliard et demi de fidèles répandus dans le monde entier, est gérée au Vatican par 3 000 personnes dont je ne suis pas sûr qu'elles bénéficient des mêmes revenus et avantages que leurs homologues parisiens, avaient pris l'habitude de répondre le pape à ses interlocuteurs, facilement portés à la caricature et sous influence d'une légende noire accusant des pires turpitudes et complots, les monseigneuries travaillant à la curie. Donc, il connaît bien son sujet.
Et la blague de Jean 23. Hein, on interroge Jean 23, on lui dit... très Saint-Père, combien de personnes travaillent au Vatican ? Et le pape réfléchit, dit oh, à peu près la moitié.
Oui, c'est ça. Alors, en fait, ce que voulait nous donner dans l'échappée belle du pape, en fait, c'est une espèce de légende pour expliquer pourquoi il existe un nez de clown dans une sorte de reliquaire qui se trouve dans l'église du Crotoy et qui est là. Et donc, on comprend à la fin que c'est pour illustrer ce nez de clown qu'on va assister
mais
à la chapelle.
Mais il ne faut pas dévoiler.
Non, mais
dévoiler,
c'est absolument à voir. Alors, qu'est-ce qu'on va lire
J'ai envie j'ai besoin de parler de trois livres à la fois parce que, en fait, c'est un anniversaire. L'anniversaire du texte de Vatican II sur le concile, sur la liturgie. Le premier texte une constitution, donc c'est très solennel, votée par la totalité des évêques moins 4 seulement, enfin, c'est un texte qui fait vraiment autorité, donc on le disait tout à l'heure, qui a donné mission aussi à Paul VI de faire la réforme du missel. Et aujourd'hui, en fait, surtout en France, on sait bien que la liturgie, c'est le lieu de pas mal de divisions, d'agacements au moins, mais plus que ça, il y a vraiment un problème entre le rite qu'on appelait naguère, la forme extraordinaire du rite romain, comme on en parlait naguère, et aujourd'hui, c'est pas facile de s'entendre sur ce qu'il faut faire dans la liturgie, ce qui est d'ailleurs assez normal, tellement la liturgie est importante. Alors, je cite trois livres. Le livre du père Lang, « Une brève histoire de la messe dans le rite romain » chez ses Decklebrouwer. Ça, c'est un livre d'histoire qui, depuis la dernière scène, en passant par la constitution des premières prières eucharistiques, la réforme grégorienne, le concile de Trente, Vatican II, montre toute l'évolution de la messe au cours des siècles. Ce qui est très important, la messe n'est pas du tout quelque chose de figé, c'est quelque chose qui a constamment évolué. Deuxièmement, ce livre de Jean-Baptiste Nadler, « L'esprit de la liturgie selon Paul VI ». Ça, c'est formidable. Cet homme a été moine à Solesmes, il est maintenant curé de paroisse, et il explique lumineusement ce qu'est le véritable esprit de la messe.
Rappelez le nom de l'auteur ?
Nadler, c'est chez Arthège.
D'accord.
C'est vraiment un livre de très éclairant. Et alors, il fait d'ailleurs des ouvertures vers la forme extraordinaire, parce que sur le côté de l'orientation de la prière, et puis sur la... Mais le livre que je recommande le plus, c'est celui de Louis-Marie Chauvet, La messe autrement dit, retour aux fondamentaux chez Salvator, parce que Chauvet est à la fois un grand spécialiste, prof à la Cato, émérite, et un curé de... Donc il sait ce que c'est qu'une assemblée dominicale.
Nous allons le recevoir, j'espère, dans les prochaines semaines. Merci Jean-François Rode. Il me reste à remercier Jean-Paul Lérine pour la réalisation, Philippe Malpeuch, François Dieudonné, Camille Meyer pour la réussite technique de notre rendez-vous. Je rappelle donc les deux livres de Michel Cot, L'échappée belle du pape, si vous voulez vous amuser, mais c'est assez sérieux quand même, et Retrouver la liberté spirituelle pour une retraite domestique. Demain vendredi, nous retrouverons Jean-Luc Génère et Nadir Amaoui pour aller au théâtre. D'ici là, prenez soin de vous et des autres, et je vous embrasse.